Chapitre 10. Carter commence à s'habituer aux spectacles étranges. Néanmoins, il a un mouvement de recul en voyant deux grosses araignées velues qu'il pense être des tarentules s'échapper de l'obscurité et traverser le cône de lumière des phares du Vélociraptor garé à côté de l'aérodrome local. Il est persuadé que les horribles bestioles se carapatent l'une derrière l'autre avant de s'apercevoir que la seconde est agrippée à la première. Celle-ci n'a pas l'air heureuse de la désinvolture de ce passager dont elle tente de se débarrasser. Les pattes des deux araignées, grosses comme les doigts de Jergen, s'entremêlent et les bestioles s'excitent dans tous les sens avant d'être avalées par la nuit. N'importe quel autre jour, l'aérodrome Hansa Air serait fermé à 7 heures puisque les vols ne fonctionnent qu'en journée. La NSA a toutefois signé un contrat juteux ce lundi-là avec les propriétaires des lieux sous prétexte de tester en milieu désertique un engin volant dont il n'a pas été précisé la nature. En réalité, il s'agit d'établir une surveillance aérienne de l'ensemble de la vallée dans un rayon de 80 km en espionnant les conversations passées depuis les portables. Les techniciens ont mis au point un programme spécial à partir d'un certain nombre de mots-clés que Jane Hawke serait susceptible d'utiliser lors d'une conversation avec son petit garçon ou celui qui en a la garde. À bord de l'avion de la NSA, un ordinateur transcrit les conversations en temps réel, avec la possibilité de localiser précisément la source des appels suspects. Deux appareils, arrivés tout spécialement de San Diego pour l'un et de Los Angeles pour l'autre, sont rangés sur le tarmac. La piste de l'aérodrome ne mesure que 800 mètres, mais la moitié suffit aux deux Havilland DHC-6 Twin Otters pour décoller, moins encore pour atterrir. Dans leur configuration de base, ces appareils sont capables de transporter 19 passagers en plus des deux membres d'équipage, mais ils n'emportent que 4 techniciens dans le cas présent. Un camion-citerne stationne sur une aire aménagée la veille avec du béton à prise rapide à côté des deux avions. Il contient assez de kérosène pour que les appareils puissent voler 3 jours durant en se relayant toutes les 4 heures. 4 mécanos équipés de tout le matériel nécessaire sont arrivés sur place à bord d'un camping-car de 18 mètres garé tout près du terminal. Ils y logeront pendant tout le temps de l'opération en compagnie du chauffeur du camion-citerne et de l'avitailleur. Le pilote et le copilote d'un hélicoptère Airbus H-120 viennent compléter l'équipe, au cas où il serait nécessaire de procéder à des recherches aériennes. Des hommes sont en train de poser tous les 3 mètres de part et d'autre de la piste des éclairages mobiles sur batterie qu'il est possible d'éteindre et d'allumer à mesure des décollages et atterrissages de nuit. Les propriétaires de l'aérodrome, s'ils sont heureux des conditions généreuses du contrat qu'ils ont signé, sont surtout surpris par l'ampleur de l'opération. Sans doute se demandent-ils pourquoi les tests concernés n'ont pu être réalisés sur l'une des nombreuses bases militaires de l'armée de l'air. Ils ont toutefois la sagesse de ne pas poser de questions indiscrètes. Radley Dubose, qui discutait avec les équipes chargées de poser les éclairages mobiles, regagne le Vélociraptor.
Il leur reste 3 heures de boulot. Le premier auteur pourra prendre l'air vers 7 heures du matin.
Le désert doit avoir senti combien Jergen le détestait, car il trouve le moyen d'envoyer à nouveau les tarentules en exploration dans la lumière des phares. Le combat atteint son apogée. L'araignée qui supporte sa congénère se déplace furieusement dans tous les sens sur ses pattes velues avant de se retourner sur le dos dans l'espoir de se débarrasser de l'intruse. Les deux bestioles s'affrontent dans un enchevêtrement de pattes au milieu d'un nuage de poussière, puis elles se séparent et se dressent de toute leur hauteur. Au moment où Jergen est convaincu d'assister à la morsure mortelle finale, il voit les tarentules disparaître dans la nuit, côte à côte.
« À quoi jouent-elles ? » se demande-t-il à voix haute.
« Elles se font la cour, » réplique Dubose.
Si tu n'es pas capable de reconnaître la passion quand elle croise ta route, l'ami, c'est que tu n'as chevauché personne depuis trop longtemps.